Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue dans Accent et pour commencer un sujet très très sérieux évidemment. Vous connaissez tous Winnie l'ourson, Winnie the Pooh qui aime tant le miel, l'idole de la jeunesse depuis des générations. Eh bien pour certains ce serait un dangereux pervers qu'il faudrait bannir des terrains de jeu pour enfants. La proposition surréaliste a été soumise à un débat très sérieux au sein du conseil municipal de la ville de Tuchen en Pologne. Alors, en quoi Winnie est-il si subversif? Plusieurs élus dénoncent le fait que Winnie l'ourson ne porte pas de pantalon et qu'il n'ait pas de sexe. En ligne de Varsovie, on retrouve Damien Simonard. Bonjour.
Bonjour.
Alors, faut-il en rire ou en pleurer? En tout cas, l'affaire de Winnie l'ourson fait grand bruit en Pologne.
Oui, effectivement, tout est parti d'un enregistrement. Quelqu'un à la mairie de Tuchen a filmé en cachette le débat au sujet de la mascotte à attribuer au nouveau terrain de jeu pour enfants dans la ville. Lorsque quelqu'un a proposé Winnie l'ourson, un des élus conservateurs lui a répondu que ce personnage de dessin animé est à moitié nu, ce qui est, je cite, « totalement inapproprié pour des enfants », et de proposer un autre ourson d'un conte polonais et qui, lui, est entièrement habillé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, un débat s'engage sur la sexualité de Winnie l'ourson, mais surtout sur celle de son créateur, le britannique Alan Alexander Milne. Une élue déclare alors que Milne, âgé de 60 ans lorsqu'il a créé son personnage, a, je cite, « coupé les testicules de Winnie l'ourson avec un rasoir car il avait un problème avec sa propre sexualité ». Fin de citation. Le film du débat tourné en cachette a été transmis à la presse et cette histoire fait désormais des vagues en Pologne mais aussi à l'étranger.
Damien, on sait que la Pologne est très catholique, très conservatrice. Avec cette histoire de Winnie l'ourson, les autorités polonaises en fait n'en sont pas à leur coup d'essai.
Effectivement, en 2007, lorsque les frères jumeaux Kaczynski et leur parti ultra-conservateur étaient au pouvoir, un débat du même genre que celui de Winnie l'ourson avait concerné l'un des Teletubbies, ces mascottes représentant des bébés et dont les aventures sont destinées aux enfants du premier âge. Sur les quatre Teletubbies, l'un d'entre eux portait un sac à main, ce qui avait fait craindre à l'époque à la porte-parole des droits de l'enfant en Pologne que ce dessin animé faisait de l'apologie de l'homosexualité. Il était même question un temps de le supprimer de la télévision publique polonaise, ce qui n'est pas arrivé. Winnie l'ourson, lui, en revanche, ne sera pas la mascotte du terrain de jeu à Tuchen.
Est-ce qu'on peut envisager un changement de mentalité en Pologne au sujet de la tolérance sexuelle?
Alors l'exemple de Winnie l'ourson montre une nouvelle fois que la Pologne n'est pas la France ou un autre pays d'Europe de l'Ouest. Ici, on est en plein débat sur la théorie du genre. Les Polonais suivent scrupuleusement l'éducation scolaire de leurs enfants. Ici, bien qu'elle devienne tolérée, l'homosexualité n'est pas considérée comme quelque chose de normal. Il n'y a aucune loi en faveur des couples de même sexe. Néanmoins, dans les grandes villes notamment, il commence à y avoir un changement de mentalité à ce sujet. Et même à Tuchen, la majorité des habitants interrogés sur l'affaire Winnie l'ourson estiment que les élus feraient bien de s'occuper de choses plus importantes. Enfin, pour l'anecdote, Winnie l'ourson tient quand même sa revanche car lors des récentes élections municipales en Pologne, aucun des élus ayant débattu sur sa sexualité n'a été réélu à Tuchen.
Damien Simonard, donc l'un de nos correspondants en Pologne, et décidément nos nounours n'ont plus la cote auprès des bien-pensants en ce moment, puisqu'en Grande-Bretagne, c'est la sortie du dessin animé sur l'ours Paddington qui fait polémique. Le bureau de classification des films estime qu'il y aurait là des références sexuelles. L'auteur des livres pour enfants, Michael Bond, se dit en colère. Il estime que le seul danger, c'est que les enfants fassent pipi de rire. Le film, en tout cas, sort le 28 décembre à Londres et le 3 décembre à Paris. Pauvre Paddington, chacun pourra se faire en tout cas son opinion sur ce sujet si sensible. Ich hab ne eigene Meinung und das macht mich glücklich wie noch nie. Ich darf sie sogar laut sagen, Stimmen tut sie nie. Warum lass ich jetzt das denken, das kommt mir doch nur schlecht. Denn die Partei hat immer recht. Et si on continuait de rire un peu, hein, il y a 10 ans, un nouveau parti politique est apparu sur la scène allemande, sobrement baptisé Le Parti. Personne ne l'a pris au sérieux. Il faut dire qu'il proposait la reconstruction du mur ou encore l'instauration d'un quota de paresseux. Et oui, aux dernières élections européennes, il a pourtant obtenu 0,6% des voix. Pas de quoi bouleverser l'ordre établi, mais suffisamment pour obtenir un siège au Parlement de Strasbourg. Fort de ce succès, le parti vient de s'installer en Autriche. Nathanaël Vitran.
Dit Partei, le parti, d'après sa profession de foi, c'est le parti du travail, de l'état de droit, de la protection des animaux, de la promotion des élites et de la démocratie participative. Rien que ça, une liste fourre-tout tirée d'un manuel de politique pour les nuls qui reflète bien l'esprit d'une formation politique hors norme. D'ailleurs, la création de la branche autrichienne du parti a été célébrée dans un pub de la capitale plutôt que dans une de ces salles de conférences ennuyeuses qu'affectionnent les partis traditionnels. Autour de quelques bières, le chef du parti autrichien a été désigné, ou plutôt élu, sur un score de 105%, une manière pour ce déçu des Verts de moquer la rigidité et le manque de transparence des partis politiques qui gouvernent l'Autriche. Le parti a même son propre hymne. Le parti a toujours raison, on lui doit tout, le soleil et le vent. Une chanson qu'ils n'ont pas écrite, mais qui fut utilisée avec et souvent sans ironie en Allemagne de l'Est pour vanter les mérites du parti communiste. Mais derrière la satire, Die Partei a un objectif, faire reculer la puissante extrême droite autrichienne. Les commentateurs ne savent pas très bien s'il faut prendre ou non au sérieux ces hurluberlus de la politique. Cela n'empêche pas certains de leur prédire un avenir. Peut-être pas au niveau de Beppe Grillo en Italie, mais après tout, s'ils sont parvenus à faire élire un représentant en Allemagne, pourquoi pas aussi en Autriche ?
C'est ce vendredi que le pape François doit entamer sa visite de 3 jours en Turquie et il devrait en profiter pour lancer à toute la région un plaidoyer pour la paix et la coexistence entre les religions. Une coexistence difficile pour la très ancienne communauté grecque-orthodoxe d'Istanbul. Le patriarcat œcuménique de Constantinople y est installé depuis 1700 ans. Et la rencontre entre le patriarche Bartholomée Ier et François ce week-end sera un moment fort. Pourtant, les membres de cette minorité ne sont pas des citoyens à part entière dans la République de Turquie. Et leur sort est étroitement lié aux relations avec la Grèce. Malgré quelques avancées ces dernières années, Ankara continue de marchander avec Athènes le droit de ces Grecs orthodoxes contre ceux de la minorité turcophone en Grèce. Le vieux séminaire de Halki au large d'Istanbul reste fermé depuis 1971 malgré les demandes récurrentes de l'Union européenne à Istanbul. C'est le reportage d'Anne Andlauer.
Pour qui sonnent encore les cloches des églises d'Istanbul ? La plus ancienne communauté de cette ville millénaire, celle des Grecs orthodoxes, rassemblait 100 à 150 000 membres au début de la République en 1923. Des décennies de vexations, parfois de menaces, de violences ou de spoliations, l'ont réduite comme une peau de chagrin. Ceux qu'on appelle ici les Roums, descendants de Byzance et de Constantinople, ne sont plus que 3 000 alors que la population de la ville a, au bas mot, été multipliée par 15. Témoin de leur histoire, le patriarcat de Constantinople sur les rives de la Corne d'Or, installé dans la ville depuis 1700 ans. Patriarcat œcuménique, auquel se rattachent également quelques 8 millions d'orthodoxes à travers la planète. Ce titre œcuménique, la Turquie ne le reconnaît pas. Elle considère le patriarche, Bartholomée Ier, comme le chef d'une église locale à laquelle appartiennent encore une poignée de ses citoyens. Des citoyens à part plutôt qu'à part entière. C'est en tout cas ce que ressent le père d'Ocytéos, porte-parole du patriarche.
Le patriarcat est vu comme une institution étrangère, à tel point que lorsque nous voulons nous adresser aux autorités, nos lettres sont transmises au ministère des Affaires étrangères à Ankara. Nous sommes vus, à l'image des Juifs ou des Arméniens, comme des étrangers, alors même que nous sommes tous citoyens turcs, nous faisons notre service militaire, nous payons nos impôts. C'est une situation, comment dire, un peu schizophrénique.
Le père d'Ocytéos dit aussi que les choses vont mieux ces dernières années. Il parle de relations amicales, de respect, avec le gouvernement autrefois dirigé par Recep Tayyip Erdogan, désormais président. Il cite la restitution, depuis 2011, des immeubles, cimetières, écoles, hôpitaux ou fontaines confisqués il y a 40 ans aux Grecs, aux Juifs et Arméniens. La Kivingas, qui représente les fondations non musulmanes au sein de la Direction générale des fondations, liée au Premier ministre, connaît très bien ce dossier. Depuis 3 ans, ce grec d'Istanbul a supervisé le retour d'environ 20% des 1500 biens réclamés.
C'est un pas énorme et encourageant. pour le futur des minorités, qui ont beaucoup souffert les minorités. Ils ont perdu beaucoup de leur valeur. C'est pas perdre une valeur seulement financière. C'est une valeur sociale, une valeur culturelle, une valeur... Vous donnez ou vous ne pouvez pas donner l'espoir à vos enfants, à votre futur, etc. Et alors, tout ça, pour réparer, il nous faut encore beaucoup de temps, beaucoup de travail encore, de deux côtés, de la part de l'État, mais de la part des minorités aussi.
Il y a un endroit parmi tous qui cristallise les tensions entre le gouvernement et la petite communauté, le séminaire orthodoxe de Halki, sur l'île de Heybeliada, en mer de Marmara. C'est là qu'étaient formés les prêtres grecs orthodoxes de Turquie avant que le gouvernement ne le ferme, en 1971, en plein conflit avec Athènes sur la question de Chypre. Même si l'actuel gouvernement laisse entendre qu'il pourrait rouvrir, il pose des conditions. Il réclame en retour que la Grèce construise une mosquée à Athènes et que la minorité turque, musulmane de Thrace, puisse choisir elle-même ses représentants religieux. Le père d'Ocytéos n'hésite pas à parler de chantage, mais Ankara préfère se prévaloir d'un principe de réciprocité et du traité de Lausanne de 1923. Pour Sami Makgönül, maître de conférence à l'université de Strasbourg, la Turquie a tout faux.
Il y a deux exceptions où on ne peut pas appliquer la réciprocité. La première exception est les droits de l'homme. On ne peut pas invoquer la réciprocité pour violer les droits de l'homme. Ça n'est pas possible. Deuxième exception, c'est les propres citoyens de l'État. Un État ne peut pas appliquer la réciprocité sur ses propres citoyens. Dans les deux cas, la réciprocité entre la Grèce et la Turquie n'existe pas. Techniquement n'existe pas, juridiquement n'existe pas, politiquement n'existe pas, moralement, éthiquement n'existe pas. Donc, dans les deux cas, les minorités ont été vues comme des otages, comme le cinquième colonne, des traîtres potentiels, etc. Donc, ceci est une erreur.
Contrairement aux Turcs de Grèce, les Grecs orthodoxes de Turquie n'ont jamais porté cette affaire devant les tribunaux. Le père d'Ocytéos s'en explique.
Le patriarche et le synode qui l'entourent ne souhaitent pas une telle confrontation. Puisque le gouvernement nous dit que le séminaire peut parfaitement rouvrir, alors réglons ce problème amicalement. Mais si cela s'éternise, si, pardonnez l'expression, on se moque de nous, alors nous serons contraints de nous adresser à la Cour européenne des droits de l'homme.
Ce choix de la discrétion, de la conciliation, tranche avec l'insistance des partenaires de la Turquie sur la scène internationale qui ne cesse d'évoquer le sort du séminaire. Pour Sami Makgönül, cette insistance est nécessaire.
Je crois que sans pression des partenaires de la Turquie, les États-Unis, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, la Turquie est pays fondateur du Conseil de l'Europe, ce n'est pas des valeurs qui sont imposées de l'extérieur, ce sont ses propres valeurs, il serait très difficile de faire avancer les choses.
Laki Vingas, représentant des fondations des minorités, porte aussi une voix différente. Sa communauté et les minorités en général doivent s'ouvrir, dit-il, pour contrer le déclin ou même la disparition. Chez les Grecs orthodoxes d'Istanbul, cela voudrait dire, par exemple, accueillir parmi eux des jeunes venus de Grèce. Un fébrile engouement que l'on ressent d'ailleurs ces toutes dernières années.
La communauté, c'est le sentiment, c'est l'histoire, c'est le passé plutôt. Alors pour l'avenir, c'est très difficile parce qu'il faut décrocher les gens du passé, devenir proactif, d'ouvrir les portes, de faire les autres qui arrivent, qui viennent chez vous. Si je n'ai pas une démographie qui va contenir ma culture, qui va contenir tous les biens, qui va garder tout ça. On ne doit pas parler des communautés folkloriques à la fin.
L'éducation, enfin, un autre grand chantier. Dans les manuels des écoliers, on ne lit pas un mot sur le passé et le présent cosmopolite de la Turquie. Des millions de jeunes Turcs ignorent qu'ils partagent ce pays avec plusieurs milliers de Grecs, d'Arméniens, de Juifs ou de Syriaques. Ce qui n'aide pas les minorités à se sentir chez elles, dans ce pays et cette région du monde.
Les voisins grecs continuent de se préoccuper plutôt de la crise. C'est l'une des conséquences d'ailleurs. Les Grecs sortent de moins en moins, encore moins le soir. Ils boudent toutes les manifestations culturelles, surtout si elles sont payantes. Le secteur connaît du coup un sérieux coup de frein. Mais si l'économie musicale vit ses années les plus noires, il y a une petite niche qui s'en sort. La musique traditionnelle, comme a pu le constater François Chevret.
Il est minuit ce vendredi soir, mais les spectateurs de la Cavouras ne sont pas légion à s'être offert un ticket d'entrée à 6 euros. Dans un coin, l'accordéon, le bouzouki, la guitare et les percussions jouent des airs de variété populaire grecque, dans cet établissement qu'on appelle ici un rebetadico. À table, quelques spectateurs ferment les yeux pour mieux ressentir la musique. C'est le cas d'Apostolos. Cela fait 16 ans qu'il fréquente les rebetadico et depuis 5 ans, il a vu le nombre de spectateurs se tarir.
C'est à cause de la crise. Il n'y a plus trop d'argent maintenant, donc on sort moins qu'avant.
Poppy, une ancienne employée de la maison et aujourd'hui cliente, fait le même constat.
Maintenant, cet endroit n'ouvre que le vendredi et le samedi. Il y a quelques années, c'était ouvert 6 fois par semaine, mais maintenant, avec la crise...
Les rebetadico, comme les discothèques, ont perdu la moitié de leur clientèle entre 2009 et 2012. Depuis, la situation ne s'est pas améliorée. Le patron de la Cavouras, Georgios Cavouras, refuse pourtant d'admettre une baisse de son activité.
On a plus de clients qu'avant parce que nos prix sont bas et que la nourriture n'est pas très chère.
Pour ensuite concéder que...
Les clients consomment moins qu'avant, on ouvre moins souvent car les gens n'ont plus d'argent. Ça ne concerne pas que les rebetadica, ça touche tout le secteur. Pas mal d'établissements ont fermé.
Moins de jours d'ouverture, moins d'établissements. Parmi les victimes, il y a les musiciens. À Athènes, ils sont très nombreux à vivre de la musique, ou maintenant à essayer d'en vivre. Thanos Bouris en fait partie. Avec son bouzouki, il ne se produit que dans les tavernes où l'on joue un autre style de musique, le rebetiko, une sorte de blues à la sauce grecque créée par les Grecs de Turquie au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, les concerts se font rares.
Avant, je faisais entre 900 et 1000 euros par mois. Depuis la crise, je ne gagne que 400 euros. Pour une soirée, si la taverne paye 50 euros, on peut dire que c'est pas mal. Avant, elle donnait 80, 90 euros. Rien qu'avec les pourboires, on pouvait se faire 300 euros par soirée. Mais là, le dernier pourboire que j'ai reçu dans une taverne, c'était il y a 2 ans.
Pour autant, ce grand passionné de rebetiko ne compte pas se résigner. Il voit un avenir au rebetiko, mais un avenir sobre et moins artificiel.
Les propriétaires de tavernes essaient d'exploiter les musiciens. Ils demandent généralement de jouer longtemps, un répertoire imposé, et ils payent 30 ou 40 euros. C'est vraiment peu. Ils ont toujours voulu faire ça, mais maintenant, ils ont une excuse. Ils peuvent dire, regarde, il y a la crise, on ne peut pas te payer plus.
Pendant que les établissements payants tentent de limiter les frais, les tavernes, elles, lancent de plus en plus de soirées musicales. Elles sont moins chères et l'ambiance y est plus tranquille. Les musiciens, souvent à deux, sont assis à une table, discutent avec les clients et jouent les chansons qu'on leur demande.
Je pense qu'après la crise, ça va revenir. Ça ne sera pas aussi fort, mais ce sera plus réel. Tout l'argent qu'on gagnait, c'était parce que les gens voulaient frimer, surtout avec les pourboires. Quand quelqu'un te laissait 200 euros, c'était pour frimer devant ses amis.
Hérodion Soulopoulos sent bien ce vent de fraîcheur. Il y a 4 ans, il a créé un site internet pour y annoncer les soirées rebetiko dans les tavernes d'Athènes. Les dates sont de plus en plus nombreuses. En puriste de cette musique très particulière, il voit la crise des grands établissements d'un bon œil.
After the crisis, everything seems to change in a way.
Après la crise, on a l'impression que tout change, car il n'y a plus beaucoup d'argent pour casser les assiettes, se montrer. Donc les gens se sont calmés, se sont tus. Et quand on se tait, on peut écouter la musique.
Depuis quelque temps, il n'est pas rare d'entendre quelques notes de musique dans les rues d'Athènes. De plus en plus de jeunes reprennent le répertoire rebetiko qu'écoutaient leurs grands-parents. Ce sont d'ailleurs les anciens qui donnent la pièce lorsqu'ils entendent une chanson qu'ils connaissent.
Et Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver tout de suite sur le site RFI.fr ou sur notre page Facebook. En attendant, restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un instant, avec patience, les infos.